Ce matin, je voudrais particulièrement saluer ceux qui nous regardent en vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux et je voudrais m'excuser de vous accueillir un peu d'une manière particulière avec un décor un peu de chantier puisque nous sommes en travaux avec quelques soucis de lumière, ce qui fait que si vous regardez la vidéo, il y aura quelques difficultés. Mais nous sommes heureux de vous avoir dans notre communion fraternelle ici dans l'Assemblée de Bastille. Je voudrais ce matin vous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, pour lire les versets d'introduction de ce magnifique livre, les trois premiers versets. Et à travers ce message, je veux donc débuter une série que j'ai intitulée « Lune de sang », qui nous permet de réfléchir à certaines choses qui nous sont enseignées dans ce livre de l'Apocalypse de Jean. Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er. Ce livre, c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Le livre de l'Apocalypse est rempli de choses étonnantes. Il est question de dragons cornus, ailés, avec de multiples têtes. Il est question de sauterelles, cuirassées et voraces. Il est question de nombres quasi mystiques, le fameux nombre de la bête 666. Il est question de jugements divins qui s'enchaînent les uns après les autres et tombent sur la terre et ses habitants. Il est question de guerre mondiale. Il est même dit que l'univers s'écroule, les étoiles s'effondrent, tout cela pour laisser place à un nouvel univers avec une terre sans mer. Quel drôle de livre! Un livre attirant, mais aussi déconcertant, mais aussi déroutant. L'Apocalypse est aussi un livre intrigant, mais parfois aussi très effrayant. Je crois que le livre de l'Apocalypse est le livre qui accomplit cette parole que Jésus dit un soir, une nuit plus exactement, à cet homme Nicodème, Jean chapitre 3, verset 12. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» L'évangile de Jean nous a parlé des choses terrestres et l'Apocalypse de Jean nous parle des choses célestes. On ne peut donc pas croire, comprendre les choses de l'Apocalypse si d'abord nous ne croyons pas dans les choses de l'évangile de Jean. Sans parler des non-croyants, les chrétiens eux-mêmes sont parfois bien embarrassés par un tel livre. Vous est-il arrivé de lire l'Apocalypse ? Oui. Mais parfois, vous est-il arrivé de caler dans la lecture de ce livre ? Et si vous avez fait l'effort d'étudier à travers des commentaires, à travers différents ouvrages, vous avez peut-être rapidement fait le constat que les appréciations des événements et des symboles varient souvent de l'un à l'autre. Ce qui nous laisse encore plus perplexes. Alors que faire avec un tel livre ? Les Juifs, quelque part, avaient résolu le problème, puisqu'avec certains des livres compliqués de l'Ancien Testament, comme le livre du prophète Ézéchiel, ils avaient décrété que la lecture de ces livres était exclusivement réservée aux sages, et que les jeunes gens ne devaient pas les lire. Ce n'est pas la voie que nous choisissons. Nous croyons que toute l'Écriture est utile. Et nous croyons que la lecture du livre de l'Apocalypse est nécessaire à l'édification de notre foi. Et je vais même aller plus loin, elle est indispensable. Pourquoi ? Parce qu'il nous faudrait comprendre tout ce qu'il y a à comprendre sur les jugements à venir. Parce qu'il nous faudrait absolument percer le mystère du nombre de la bête. Non, pas du tout. Mais parce que la Bible nous dit qu'il y a une promesse de bénédiction pour ceux qui lisent, qui écoutent et qui gardent dans leur cœur les paroles que nous trouvons dans ce livre. Une promesse de bénédiction. Laquelle ? Tout simplement, ce livre est celui de la plus grande révélation de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse est avant tout le livre de l'ultime révélation de Jésus. Si vous reprenez le premier verset, il est question de la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et très souvent, nous comprenons ce livre comme le livre des révélations des choses qui doivent arriver bientôt, alors que d'abord, il est un livre qui nous révèle Jésus. Et je vais vous dire, il est impossible de comprendre les choses qui doivent arriver bientôt si d'abord nous n'avons pas reçu la révélation de Jésus. Et dans ce livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous trouvons 5 révélations ultimes de la personne de Jésus. Et ces 5 révélations sont comme 5 clés pour comprendre le livre de l'Apocalypse et pour vous aider à le lire et à le relire. Lorsque l'apôtre Jean écrit ce livre, c'est le dernier des apôtres vivants. Tous les autres sont morts martyrs, à l'exception de Judas. Il est en exil sur l'île de Patmos parce qu'il a refusé de rendre un culte à l'empereur de Rome. Comme il est très âgé, on n'a pas voulu l'exécuter, on l'a déporté. Et là, sur cette île de Patmos, au milieu de la mer Méditerranée, un ange vient le visiter et lui donne des visions. Des visions sur ce qui doit arriver bientôt, mais avant tout des visions concernant la personne de Jésus. Et nous allons nous arrêter sur ces 5 visions. La première d'entre elles, la première des révélations que Jean reçoit concernant la personne de Jésus, couvre les chapitres 1 à 3. Et nous lirons particulièrement les versets 7 et 8. Voilà ce que Jean écrit. Voici il, soyons plus précis, voici Jésus, vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le contexte nous permet de comprendre ceci. Jean reçoit une vision, et dans cette vision, une voix puissante se fait entendre. Elle vient de son dos. Et cette voix dit donc, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Si on devait traduire ceci dans le langage de l'Ancien Testament, on pourrait dire « Je suis l'Éternel ». Car c'est bien ce que veut dire alpha et oméga. Celui qui est au commencement, avant moi, il n'y a rien. Et celui qui est à la fin, après moi, il n'y a rien. Je suis tout, tout est en moi, je suis l'Éternel, je suis celui qui est. Il est le A, il est le Z, il est au commencement, il est à la fin, il aura le dernier mot en toutes choses comme il a eu la première parole créatrice de toutes choses. Il connaît tout. Il tient tout entre ses mains, rien ne lui échappe. Il est maître, il contrôle tout, même la mort qu'il a vaincue, comme il le dit ensuite. Il tient même entre ses mains les clés du séjour des morts, ce qui est un signe de pouvoir. Il le dit, je suis le Tout-Puissant. Je suis El Shaddai. Et le texte rajoute que celui qui parle ainsi, c'est le Seigneur Dieu. Et qui est donc celui qui parle ainsi ? Je vais être précis. Ce n'est pas Dieu le Père, bien qu'il le pourrait, mais c'est Dieu le Fils, c'est Dieu Jésus. Et dans ce passage, dans cette parole qui interpelle l'apôtre Jean, c'est donc la divinité de Jésus qui est affirmée. La première révélation que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, c'est celle de la divinité de notre Seigneur. Et c'est là que je veux établir le lien entre l'évangile de Jean, je le disais tout à l'heure, qui parle des choses terrestres, et le livre de l'Apocalypse de Jean, qui nous parle des choses célestes. Dans l'évangile de Jean, le propos de l'apôtre était de nous amener à croire que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Croyez-vous cela? Si vous croyez cela, alors le but de l'évangile est atteint, gloire à Dieu. C'est la plus belle des révélations des choses terrestres concernant Jésus. Et puis dans cet évangile de Jean, tout à la fin, il y a une confession. Et je veux dire une ébauche de confession, c'est celle de Thomas. Vous rappelez-vous? Il s'approche du Seigneur, ses stigmates, ses marques, et il dira, « Tu es mon Seigneur et mon Dieu. » C'est l'unique fois où dans les évangiles, un homme va confesser la divinité de Jésus. Mais je dirais, il le confesse comme en pointillé. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, mais il n'en exprime pas réellement le contenu, la forme. Parce que l'évangile de Jean s'arrête à nous enseigner concernant les choses terrestres. Mais là où s'arrête l'évangile de Jean, c'est vrai, bien des années plus tard, 60 ans plus tard, c'est comme si Jean reprenait le fil de sa pensée. Et dans l'Apocalypse, il va nous parler des choses célestes et divines qui concernent la personne de Jésus. Il a entendu la voix, la puissante voix du Seigneur, le Seigneur Tout-Puissant qui lui parle. Alors évidemment, que fait Jean? À l'écoute de cette voix, il se retourne. Quelle vision extraordinaire! Quelle vision divine! Il connaît celui qui est devant lui. Mais en même temps, il le voit comme il ne l'a jamais vu auparavant. Et pourtant, il le connaissait bien. Y a-t-il un disciple qui connaissait mieux Jésus que Jean? Quelle amitié, quelle intimité! Lui seul a posé sa tête contre la poitrine du Seigneur. Mais ce jour-là, il lui est très difficile de venir dans l'intimité de ce Jésus divin glorifié. Au contraire, il est saisi par la sainteté de Dieu, par la puissance de Dieu. Et ça me rappelle le prophète Daniel dans ses visions. Il tombe à terre. Il est dans un état de choc. Il est presque comme mort. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est se prosterner et adorer. Ce n'est plus simplement Jésus, son ami. C'est Jésus Dieu qui est devant lui. Et la description qu'il nous fait de cette vision de Jésus dans sa divinité nous rappelle que celui qui était dans le sein du Père et qui a été manifesté sur cette terre dans sa faiblesse, dans son humilité, a prié juste avant de remonter vers son Dieu. « Père, redonne-moi la gloire qui était la mienne avant que je vienne sur cette terre. » Et là, Jean le voyait dans sa gloire. Jean voyait Jésus dans la gloire de Dieu. Et la description qu'il nous fait dans ce magnifique passage, nous ne pouvons pas lire, mais je veux vous inviter à le lire chez vous. Apocalypse 1, versets 12 à 18. Et il nous le décrit dans son habillement. Jésus paraît comme le souverain sacrificateur. Non pas d'un tabernacle fait par la main des hommes, mais du tabernacle céleste, du tabernacle de Dieu. Jésus apparaît dans un grand vêtement blanc, avec une ceinture d'or. Quel glorieux Seigneur! Et puis ensuite, il nous le décrit dans son apparence physique, avec cette lumière, avec ses éléments en fusion. Il cherche les mots pour décrire au plus juste ce qui est au fond ineffable. Et les descriptions qu'il nous donne de la personne de Jésus à ce moment-là nous renvoient encore à l'Ancien Testament. Retournez donc lire Ézéchiel chapitre 1er lorsque Ézéchiel voit le chariot du trône de Dieu et il voit au-dessus des créatures divines, il voit le trône de Dieu et il voit la puissance, il voit la gloire, il voit le feu de Dieu, il voit Dieu au milieu. Retournez lire le livre de Daniel au chapitre 7 lorsqu'il est question de l'ancien des temps. Et vous verrez ce qu'il nous en dit, nous ramène directement à cette vision que Jean a de la personne de notre Seigneur Jésus à ce moment-là. Je note ceci, à ce moment Jean est donc un homme très âgé. Jean n'est plus ce jeune disciple bouillant, fils du tonnerre de l'époque de Jésus. C'est maintenant un vieillard de plus de 80 ans, avec plus de 60 ans de ministère derrière lui. Je me dis certainement, pour avoir de telles visions, il faut avoir vécu. Il faut peut-être avoir passé ce temps de l'action. Jean a connu le temps de l'action. Et quand ses forces l'ont un peu quitté, il a connu le temps de la contemplation. Il en est pareil pour Daniel. On pense que Daniel est toujours un gamin de 15 ans. Mais quand Daniel reçoit les visions et les songes, c'est un vieillard de plus de 85 ans. Et lui aussi, il a laissé derrière lui une bonne partie de ses forces. Et la plupart des hommes de Dieu, Abraham, le premier Moïse, ont reçu des révélations extraordinaires au bout d'un certain temps. Parce que je crois qu'il faut d'abord que la parole de Dieu travaille nos cœurs. Oh, je ne sais pas si nous aurons tous une vision du Seigneur telle que Jean l'a reçue. Si nous en avons une, béni soit Dieu pour cela. Mais je vais vous dire ceci. Le principal, ce n'est pas que nous voyons, un jour nous verrons, mais c'est que nous croyons. Même si nous ne voyons pas Jésus comme Jean l'a vu, mais si nous faisons nôtres ces paroles, si nous les lisons, si nous les entendons, si nous les gardons dans notre cœur, nous allons être bénis. Vous croyez que Jésus est le Christ? Vous croyez qu'il est le Fils de Dieu? Alors maintenant, mon frère, ma sœur, monte plus haut. Crois-tu que Jésus est Dieu? Crois-tu que Jésus est Dieu? Fais tienne ces paroles que Jean nous adresse pour notre édification. Et alors tu pourras te dire que quelles que soient les épreuves de ta vie, Jean était en exil. Celui qui veille sur toi, celui qui est avec toi tous les jours, c'est le Jésus de Patmos. C'est le Jésus Tout-Puissant. C'est le Jésus éternel. Il est avec toi. Quelles que soient les épreuves de ta vie, ce Jésus-là veille sur toi. Et la Bible nous dit, peut-être vous rappelez-vous ce message, basé sur Actes 1:11. Vous savez la parole des anges aux disciples qui regardaient vers le ciel alors que Jésus était monté, les anges leur disent, mais ce Jésus-là, ce Jésus glorieux, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et c'est ce Jésus de Patmos qui vient nous chercher. Ce Jésus de Patmos qui tient les clés du séjour des morts. Alors je sais que quand bien même je devrais mourir avant qu'il revienne, je ne crains rien, parce que Jésus a vaincu déjà la mort et qu'il viendra me chercher, alléluia. Quelles que soient les épreuves, il peut intervenir parce qu'il est le Tout-Puissant. Et grâce pour grâce, Jean me dit aussi ceci dans son épître. Quand nous le verrons, nous serons rendus semblables à lui. Semblables, comprenez-le, non pas au Jésus de Galilée, mais semblables au Jésus de Patmos. Waouh ! Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Rendu semblable à lui, en tout point à lui. Béni soit Dieu pour tout ça. Oh, tu crois que Jésus est Dieu? Mais connais-tu ce Jésus? Alors ce matin, ma première prière, c'est que ce Jésus de Patmos se révèle dans ta vie. Parce qu'il est notre force. Alléluia. Je veux avancer maintenant vers une seconde révélation, celle qui concerne les chapitres 4 et 5. Et alors nous pourrions nous dire, mais après avoir vu une révélation de Jésus-Dieu, qu'y a-t-il d'autre? Nous allons avoir l'impression, dans ce qui suit, de peut-être de redescendre d'un cran, mais pourtant non. Au contraire, le Seigneur va nous amener de révélation en révélation, de gloire en gloire. La section qui vient nous parle de Jésus comme l'agneau de Dieu. Et le principal thème de cette partie, c'est de nous montrer que l'agneau de Dieu est digne et qu'il est glorieux. Nous ne sommes plus à Patmos. Mais le Seigneur avait dit à Jean, monte ici. Et Jean est dans les cieux. Il voit la gloire de Dieu. Il voit Dieu assis sur son trône, entouré de myriades et de myriades d'anges qui célèbrent son nom et des vieillards, 24 vieillards assis sur des trônes qui jour et nuit le louent et l'adorent. Et Dieu tient dans sa main un rouleau, un livre, écrit dedans, à l'intérieur et à l'extérieur. Et ce rouleau est cacheté, fermé par 7 sceaux. Et un ange pose une question. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et la question traverse le ciel et la terre. Et dans le ciel, aucun ange, aucun vieillard, aucune créature ne répond. Et sur terre et sous terre, aucun n'ose élever la voix. Alors Jean est saisi de tristesse. Mais un des vieillards vient le consoler. Et il lui dit ceci. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le puissant, voici le fort, voici celui qui a vaincu, voici celui qui est digne de prendre le livre de la main de Dieu et d'en rompre les sceaux, alléluia. Alors Jean, j'imagine, pardonnez-moi, regarde dans la direction que lui montre le vieillard, il cherche un lion. Pas de lion. La seule chose qu'il voit, un agneau. Quoi de plus opposé à un lion qu'un agneau? Un agneau un peu mystérieux malgré tout, puisqu'il a 7 cornes et 7 yeux. Quelle drôle de bête. Mais en plus, c'est un agneau qui a été immolé. Un agneau vaincu. Et cet agneau-là serait le lion de Juda. Ouh, même pas peur. Mais quand Jean le voit, il le reconnaît. Cet agneau-là est spécial. C'est l'agneau dont Ésaïe avait dit qu'il serait mené à la boucherie. C'est l'agneau que chaque famille en Égypte devait prendre et immoler et récupérer le sang pour le mettre sur le linteau de la porte pour que, au moment où l'ange de la mort passerait, la colère passe au-dessus de la maison. C'est l'agneau dont il devait manger la chair rôtie pour s'en approprier les vertus. C'est l'agneau, oui, c'est l'agneau dont Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cet agneau, Jean le connaissait, il l'avait vu souffrir à la croix. Il l'avait vu mourir pour le péché des hommes, il l'avait vu mourir pour le salut de l'humanité. Et il avait vu ensuite son tombeau vide, et il l'avait vu ressusciter, et il l'avait vu s'en allant au Père, portant encore les stigmates de Dieu dans sa chair. Et maintenant, il était là devant lui, cet agneau. Et il s'avançait vers le trône de Dieu. Il l'avait perdu de vue depuis tant d'années, mais il le retrouvait maintenant dans la gloire de Dieu. Et cet agneau faible, cet agneau chétif, cet agneau apparemment vaincu, était maintenant élevé, glorifié et digne. Et Dieu lui donnait le livre. Et l'agneau pouvait le prendre, rompre les sceaux et libérer les paroles qui étaient écrites à l'intérieur et à l'extérieur. Le plus fort, le puissant, le vainqueur de Dieu, le vainqueur de Dieu, le lion de Juda était donc un agneau. Voilà une nouvelle révélation de la gloire de Jésus-Christ. Mais comment ? Comment recevoir une telle révélation si d'abord sur la terre, nous ne l'avons pas vu dans ses souffrances ? Comment le voir dans sa gloire si d'abord nous ne l'avons pas vu dans son humiliation ? Comment le contempler dans sa force si d'abord nous ne l'avons pas aimé dans sa faiblesse ? Jean pleurait, comme nous avons pleuré devant les souffrances de l'agneau. Mais maintenant il se réjouissait, parce qu'il voyait la gloire de celui qui avait donné sa vie pour son salut. Alléluia. Nous en arrivons à la troisième révélation. Elle s'étend des chapitres 6 au chapitre 18, un long passage. Et peut-être que ce passage... Ces 14 chapitres sont les chapitres les plus déconcertants, les plus terrifiants de toute la Bible. Nous y trouvons toutes sortes de choses dramatiques, des événements terribles, des événements guerriers, des événements marqués par le sceau de Satan. Et nous y voyons aussi une succession de jugements qui s'enchaînent les uns après les autres, toujours plus oppressants. Dans ce passage, Jésus nous est présenté comme le juste juge. Et il n'est pas possible de comprendre ces chapitres où il est question de l'antéchrist, de la bête, de Satan précipité sur la terre, si d'abord nous ne comprenons pas que la justice de Dieu est juste et que Jésus est un juste juge. Dieu patiente à l'égard des hommes. Il ne désire qu'aucun homme soit perdu. Il veut que tout homme parvienne à la repentance. Mais viendra un temps où la justice de Dieu se manifestera à l'égard de la rébellion et de l'injustice que les hommes auront accomplis. Et cette question de justice et d'injustice est très sensible. Ah, les hommes sont prêts à entendre un Dieu plein d'amour, de compassion. Mais dès que vous leur parlez de justice, ils tremblent. Ne me parlez pas de cela. Je ne veux pas entendre parler de cela. Dieu ne peut pas être comme ceci. Mais Dieu n'est jamais injuste. Jamais injuste dans ses jugements. Mais la question est tellement sensible, c'est vrai, que par deux fois le livre de l'Apocalypse va dire ceci, Apocalypse 16, 5 et 19, 2, « Tu es juste d'avoir exercé ces justes jugements. » La justice de Dieu doit se manifester. Se manifestera à travers trois séries de jugements. Apocalypse chapitre 6, c'est les jugements des sceaux, les sept sceaux du livre que l'agneau ouvre. Et c'est dans ce passage qu'il y a les fameux cavaliers de l'Apocalypse. Ensuite, à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11, il y a le jugement des trompettes, et c'est le temps des malheurs qui s'abattent sur l'humanité. Mais c'est aussi un temps marqué par la prédication d'un évangile. Apocalypse chapitre 14, verset 7, il est question de la proclamation de l'évangile éternel. Cet évangile ne sera pas annoncé par des hommes, mais par des anges. Cet évangile ne concerne pas Jésus. Il concerne Dieu. Il concerne le Dieu du jugement, le Dieu créateur. Et ce Dieu-là désire encore amener les hommes à la repentance. Nous serons à ce moment-là dans des temps d'iniquité, d'injustice, où les hommes seront en rébellion totale et complète à l'égard de Dieu. Mais il y aura toujours des hommes qui garderont la crainte de Dieu dans leur cœur. Et cela, Dieu les appellera. À cause de toute l'injustice qu'il y a dans le monde, il les appellera à la repentance. sur la base de la crainte du jugement et sur la base du Dieu créateur que l'on doit honorer. Qui sont ces gens? Il y en a des millions et des millions dans le monde. J'ose le dire, ces gens, ce sont des gens qui craignent Dieu, qui craignent le Dieu créateur, mais qui ne le servent pas selon la voie de l'Évangile. Ce sont des musulmans. Ils craignent Dieu. Ils honorent le Dieu créateur, mais ils ne le servent pas selon la voie de l'Évangile. Et malheureusement, ils sont égarés. Mais Dieu voudra, malgré tout, que ces hommes, parce qu'ils les aiment, ne croyez-vous pas, reviennent à lui. Ils peuvent être animistes, bouddhistes, hindouistes, tout ce que vous voulez. Ils ont cette crainte du Dieu éternel. Pourquoi? Le livre de l'Ecclésiaste ne dit-il pas que dans le cœur de l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Et ce sera la dernière main tendue. Vous savez, comme Jésus a tendu sa main vers Judas. Ça sera la dernière main que Dieu tendra vers l'humanité. Et la Bible nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je ne sais pas comment exactement. C'est l'affaire de notre Dieu qui est souverain. Le jugement des sceaux, le jugement des trompettes, tant des malheurs et ce n'est pas fini. Dernière série de jugements. Apocalypse chapitre 16, versets 1 à 21, c'est le jugement des coupes. Sept coupes que des anges vont déverser les unes après les autres sur la terre. Et ces coupes, la Bible nous dit qu'elles sont remplies de la fureur, de la colère de Dieu. C'est un temps tellement solennel qu'avant cela, l'Apocalypse dit qu'il y aura un temps de silence de 30 minutes dans les cieux. Comme si le temps était suspendu. Et ensuite, la colère de Dieu vient. Tout ceci pour finir sur cette immense bataille qui s'appelle l'Armageddon. Nous pourrions dire, mais qu'en sera-t-il de nous? Alors je me rappelle ce que les apôtres nous ont enseigné. Que nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Parce que nous avons fait la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas concernés par ces jugements. Au contraire, l'Apocalypse nous dit au chapitre 15 que pendant que la terre et ses œuvres seront jugées, nous serons dans les cieux chantant un cantique, le cantique de Moïse, qui dit ceci, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Le monde sera jugé et nous serons dans les cieux. Et particulièrement à ce moment-là, Dieu jugera ceux qui auront persécuté et fait souffrir les saints. C'est aussi un jour de vengeance à l'égard de tout ce que nos frères et sœurs souffrent aujourd'hui dans le monde. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est le juste juge. Quatrième révélation, chapitre 19 et 20. Jésus est le roi des rois. Et la Bible nous le présente assis sur un magnifique cheval blanc. Et il s'élance à la bataille accompagné de l'armée des anges et de son Église qui le suit. Et il revient sur terre, posant son pied à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, pour sauver le peuple d'Israël. Mais avant cela, il va d'abord combattre et vaincre ses ennemis. L'Antéchrist et le faux prophète qui seront jetés vivants dans les temps de feu. Puis Satan, Apocalypse 20, qui sera saisi et enfermé pour 1000 ans dans l'abîme, sans possibilité de nuire parmi les hommes. Et Jésus jugera les nations et les hommes selon le bien et le mal qu'ils auront fait aux siens pendant les temps de persécution. Et le Seigneur ensuite rétablira le royaume d'Israël sur terre. Et il règnera avec son Église et à travers le peuple d'Israël qui sera la première des nations, lumière des nations, pour éclairer tout homme et les amener à Dieu pendant un règne de justice, de vérité, un règne de 1000 ans. Il sera roi et tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, notre Père. Amen. Et j'en arrive à la dernière révélation. Chapitre 21-22, l'ultime révélation de Jésus dans les Écritures. Autrement dit, la couronne. Et quand nous découvrons ce qu'est cette révélation de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous devons être vraiment touchés dans notre cœur par l'amour de notre Dieu. Comment Jésus se révèle-t-il? Il est l'époux. Il est l'époux qui prend son Église, son épouse, pour l'introduire dans la cité que Dieu a établie. Et ça, c'est touchant. Parce que cela, comme c'est l'ultime révélation, c'est la perfection. Ce que nous pouvons atteindre de mieux, ce que nous pouvons comprendre de mieux concernant Jésus, de plus haut, de plus céleste, de plus divin, de plus glorieux. Ce n'est pas simplement Jésus dans sa divinité, c'est Jésus dans tout son amour pour nous. Il est notre époux. Voilà le but de la Bible. Voilà l'ultime révélation de Dieu. Jésus est notre époux. Ce qui nous amène à comprendre aussi ce qu'est l'ultime but de notre vie chrétienne. Être l'épouse de Jésus-Christ. Jean écrit: la femme de l'agneau. Et le Seigneur a préparé pour nous de grandes choses, un banquet royal, un banquet divin. Osons-nous imaginer la taille de la salle? Ouf! Le nombre de couverts! En tout cas, ce qui est certain, c'est que au centre de la salle, une place est réservée pour Jésus. Une place est réservée pour moi. Une place est réservée pour toi. Notre nom sera là, j'imagine, petit écriteau, vous savez, c'est ma place. C'est ma place, hein. Seigneur, tu me la gardes, tu me la prépares. Quel repas merveilleux. Mais vous savez, l'instant le plus précieux, ce ne sera pas la pièce montée. Mais ce sera le moment où Jésus, de nouveau, prendra le pain, prendra la coupe. N'a-t-il pas dit qu'il n'en boira plus jusqu'à ce que son royaume vienne? Quel moment merveilleux lorsque nous verrons Jésus porter à sa bouche cette coupe. Ce ne sera plus une coupe d'affliction, mais ce sera une coupe à la gloire de notre Dieu. Et après, nous savons quelle cité, quelle merveilleuse cité nous est préparée. Si cela vous intéresse, je vous renvoie un message donné au mois d'août l'année dernière sur la cité de Dieu. Oh, nous avons hâte. Nous avons tellement hâte que Jean, au chapitre 21, verset 17, me semble-t-il, finit son passage en disant: viens, viens Seigneur, Maranatha, parce que quand on réalise tout ce que Jésus a préparé pour nous, on dit mais Seigneur, c'est ça que je veux. Paul avait raison, le meilleur c'est d'être là-haut. Tant qu'on est en bas, on est utile, mais le meilleur, c'est là-haut. Christ est ma vie. Ah, Seigneur, être avec toi. Ok. Mais sommes-nous à la hauteur de nos fiançailles? Sur cette terre, nous sommes la fiancée. Sommes-nous à la hauteur de notre temps de fiançailles? Jésus est le fiancé par excellence. Il a tout préparé, tout donné jusqu'à sa vie pour nous acquérir. Et il prépare tout là-haut. Et lui est dans l'attente. Parce que ce n'est pas lui qui dit le moment où il doit venir. Dans la tradition juive, c'est le Père. C'est le Père qui connaît la date, qui connaît le moment. C'est le Père qui dit au Fils, va chercher ton épouse. Et Jésus est dans l'attente, Père, Père, quand vient le moment? Et je crois que le Seigneur sonde le cœur du Père, il sonde les temps pour savoir quand vient le moment de venir chercher son Église et nous. Sommes-nous de ceux qui disent, viens Seigneur Jésus? Sommes-nous véritablement comme une fiancée qui est en train de tout noter? Sa robe, ses bijoux, le coiffeur, les cartes, l'agencement de la salle, le menu, etc. Tous les détails. Et elle vient, et elle revient. Et est-ce que ça sera les bonnes chaussures, les fleurs, la couleur, tous les détails. Rien n'est oublié. Tout est ausculté, repensé 10 fois, 20 fois, repréparé. Amen. Vous avez connu ce temps de fiançailles pour beaucoup. On ne pense qu'à ça. Mais l'Église est la fiancée de Christ. Et le fiancé nous regarde. Demain, j'ai rendez-vous avec toi. Tu seras là. Oui, oui, je serai là. Demain arrive. Bon, elle est peut-être en retard. Elle n'est pas venue. Ah, un SMS. Désolé, j'ai du retard, j'ai été prise. Un souci de dernière minute. N'est-ce pas ce qui nous arrive souvent? Quels fiancés sommes-nous? Mais si nous sommes véritablement amoureux de Jésus comme Jésus l'est de nous, alors, comme le dit encore la parole, avec l'Esprit, le Saint-Esprit, l'épouse dit, Amen, viens Seigneur Jésus. Et ça, c'est l'ultime révélation. Parce que vous savez, il y a 3 choses, la foi, l'espérance, mais il y en a une qui est éternelle, c'est l'amour. Et la Bible, c'est une histoire d'amour. Tout ceci pour vous montrer que le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre pour nous faire peur, n'est pas un livre pour nous maintenir dans la crainte du jugement à venir. Le livre de l'Apocalypse, il reste déroutant, intriguant sur bien des points, et il y a plein de choses sur lesquelles je ne peux vous répondre. Mais je sais avant tout que le dernier livre de la Bible, c'est le livre de l'ultime révélation de Jésus. Et ce que je sais, c'est que mieux connaître Jésus, c'est mieux vivre ma foi, et c'est mieux l'aimer pour mieux le servir. L'évangile de Jean nous avait parlé des choses terrestres concernant le Seigneur, et nous avons cru qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. L'Apocalypse, bien des années plus tard, après une longue marche avec le Seigneur, Jean nous parle des choses célestes, éternelles et divines. Il y a une promesse de bonheur dans ce livre, et elle n'est pas pour celui qui percerait le mystère du nombre de la bête, mais elle est pour celui qui saisit par la foi ces révélations ultimes de Jésus. Jésus est l'alpha, l'oméga, il est Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu souffrant sous la terre et glorifié dans les cieux. Jésus est le juste juge. Jésus est le roi des rois avec qui nous régnerons. Et au bout, Jésus est l'époux avec qui nous vivons. Celui qui lit, ceux qui entendent et qui gardent les paroles de ce livre sont heureux. Grande est leur connaissance de Christ, mais surtout, grand est leur amour pour Jésus. Leur vision de la vie et de leur foi ne s'arrête pas à une simple dimension terrestre. Elle rentre dans le domaine divin, dans des choses qui étaient encore cachées du temps de l'Évangile, mais que Dieu réservait à ses saints. Les révélations contenues dans ce livre, révélations de Jésus-Christ, vous amèneront dès lors à une foi plus forte, quelle que soit l'épreuve, et à vous écrier, en accord avec le Saint-Esprit, « Maranatha ». Et le Père, parce que c'est toujours le Père qui vient à la fin, dit, et je crois que c'est lui qui le dit, c'est la dernière parole des Écritures, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Seigneur, je te loue de ce que je crois que pour la plupart nous avons déjà expérimenté, connu, vécu les choses terrestres qui concernent ton Fils. Nous croyons qu'il est le Messie d'Israël. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'il est le seul par lequel nous puissions être sauvés. Mais Seigneur, nous comprenons que tu as encore d'autres choses à nous révéler. Des choses célestes, des choses divines, des choses éternelles, des choses supérieures. Et ce n'est pas parce que nous serions devenus meilleurs que nous allons les saisir. Mais c'est parce que notre foi est prête à les accueillir. Ce matin, Père, je te prie de nous amener dans une nouvelle révélation de Jésus. Apprends-nous à l'aimer, à le connaître, à le servir tel qu'il est dans les yeux. Ouvre nos yeux, Père, ouvre nos yeux, nous voulons voir. Mais Seigneur, je veux dire aussi que ta parole est suffisante. Que ta parole est suffisante pour que nous croyions et que nous soyons bénis. Alors Seigneur, nous voulons faire nôtre tout ce qui est écrit dans ce livre ultime, parfait, total et complet de ta révélation. Nous n'avons rien à retrancher. Nous n'avons rien à ajouter et nous disons Maranatha. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage. Demandez à Dieu une plus grande révélation de Jésus dans votre vie.